En 1988, General Motors, la plus grande fabrique d'automobiles du monde, a décidé de relancer son modèle le plus populaire, l'Oldsmobile. Les ventes avaient chuté et elle n'était plus populaire, surtout parmi les jeunes. La société avait donc lancé une campagne publicitaire de plusieurs millions de dollars sur toutes les stations de télévision et tous les journaux et aussi toutes les revues. Ils voulaient relancer les ventes de l'Oldsmobile. Vous vous en souvenez peut-être, c'était en 1988. La publicité était d'une seule phrase. C'est un slogan qui est, pour ainsi dire, passé dans les mœurs américaines, car on le cite encore souvent de nos jours pour quasi n'importe quoi. Ce slogan était « pas du genre Oldsmobile à papa ». C'était conçu pour encourager les jeunes à essayer cette nouvelle auto. Et l'on espérait que l'ancienne génération continuerait d'acheter une Oldsmobile. Hélas, cette publicité s'est avérée être l'une des 10 pires publicités inventées. Elle avait choqué, notamment les personnes plus âgées, pas du genre Oldsmobile à papa, et elle n'avait pas poussé les jeunes à acheter ce nouveau modèle. Un peu plus de 10 ans plus tard, l'Oldsmobile disparaissait. Le dernier modèle quitta les chaînes de montage en 2004. C'était une 4 portes rouge, l'Alero GLS de Ford. La dernière Oldsmobile. Le slogan, par contre, fit son chemin et fut adopté par la culture pop. Il est passé dans les dictionnaires comme une expression couramment utilisée pour n'importe quoi. On le qualifie d'expression culturelle et même d'idiome. On peut lire notamment dans un dictionnaire « C'est une expression idiomatique pour quelque chose qui vient de changer, de devenu atypique par modernisation. » On s'en sert pour pratiquement n'importe quoi. Je l'ai encore entendu la semaine dernière. Pas du genre « parti démocrate à papa ». C'est une phrase qui était utilisée. Ou « pas du genre armée de papa ». Pour indiquer, évidemment, quelque chose de différent. Pas du genre telle ou telle chose. Pas du genre machine à coudre à maman. Et les Américains ont l'habitude d'entendre cette expression. Il y a même un commerce dans l'État de New York qui s'est choisi le nom « pas du genre racinette à papa ». Le dit commerce s'appelle ainsi. Ce slogan est donc devenu assez célèbre ici. L'auteur de cette publicité, qui l'a inventée en 1988, a écrit un article récemment à son sujet. Il y dit que bien qu'elle ait pratiquement ruiné sa carrière en 1988, en rétrospective, il rit maintenant de ce qu'elle est entrée dans la culture populaire. Le titre de mon sermon, « Pas du genre fête à papa ». Cette fête sera différente. Mais dans quel sens? Commençons par définir le contexte de ma pensée cet après-midi avec ce message. En février cette année, on a dit à notre pays de ne pas nous inquiéter au sujet d'un virus originaire de Chine. C'est ce qu'on pense et je suis sûr que c'est le cas. Évidemment, quand on nous a dit cela, le dit virus était déjà répandu en Europe, mais on nous disait en février qu'il ne nous affecterait pas. Nous voyagions encore, nous nous rendions au Mexique. Nous allions en Amérique centrale à l'époque, au mois de février cette année. On a du mal à le croire. En mars, la situation changea de façon dramatique. En fait, elle changea alors brusquement. Nous étions au Guatemala pour une conférence, début mars, et avions décidé, ma femme et moi, de rester 2 semaines de plus, d'aller à Antigua, prendre une classe d'espagnol de 2 semaines pour améliorer mon espagnol. Nous étions restés 2 semaines. À la fin de cette période, tout semblait normal. Le 12 mars, un jeudi, nous avons reçu un coup de téléphone de mon gendre, qui vit au Salvador. Et il nous avertit, il a des amis qui travaillent au gouvernement, que le gouvernement du Salvador s'apprête à annoncer à la fin de cette semaine-là que le pays allait être emplacé en confinement, que l'aéroport et ses frontières allaient être fermés. Nous devions nous rendre au Salvador le samedi 14. Il nous avertit le 12 mars et il nous dit « Il faut que vous preniez le prochain avion en partance et rentriez aux États-Unis, car les frontières vont être fermées, ainsi que les aéroports. Et tout va se passer très vite. » Nous avions donc fait le nécessaire afin de prendre un avion ce vendredi-là, le 13 mars. Je me trouvais dans l'aéroport de la ville de Guatemala, parlant au téléphone à quelqu'un à McKinney, et à midi, le 13 mars, la décision fut prise d'annuler toutes les assemblées aux États-Unis. Nous ignorions pour combien de temps, mais nous estimions que c'était la chose à faire. Ce que nous avons fait. Nous avons averti tout le monde vers midi ce vendredi-là, le 13 mars, qu'il n'y aurait pas d'assemblée le lendemain aux États-Unis. Pas de réunion en groupe. Nous avons fait une webdiffusion ce premier sabbat. Dans les deux semaines qui ont suivi, les assemblées ont été annulées partout ailleurs. En l'espace de 3 ou 4 semaines, toutes les réunions des églises ont été annulées. Notamment, bien entendu, celle de l'Église de Dieu Association mondiale. Il en a été de même pour les autres églises. Il n'y a donc pas eu d'assemblée. Une telle chose ne s'est jamais produite. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, lors de l'une des pires crises dans l'histoire de ce pays, l'Église n'avait pas interrompu ses assemblées. Les membres continuaient de se réunir chaque sabbat. Il y a eu des occasions où nous avons dû annuler une réunion, un jour de sabbat, comme, si je m'en souviens bien, en 1974, sur la côte est des États-Unis, quand on nous a demandé de le faire à un moment où il y avait une crise dans l'Église, mais à part cette occasion, aucune assemblée n'avait été annulée dans le monde. C'est sans précédent, historiquement, à ma connaissance, pour l'Église de Dieu. 3 assemblées en mars, annulées. 4 assemblées en avril, annulées. 5 assemblées en mai, annulées. La Pâque s'est faite en ligne. Les 2 jours saints des pains sans levain, en ligne. Web diffusion. Pentecôte, même chose. 16 assemblées consécutives annulées. Notoire. Inhabituel, sans précédent. Et cette situation devient de plus en plus pesante à mesure que les semaines passent. En juin, évidemment, nous avons repris plusieurs assemblées en groupe, progressivement. À présent, quasiment toutes nos congrégations ont de nouveau des assemblées, soit 109 congrégations aux États-Unis. Mais ce n'est pas le cas dans le monde entier. En Amérique latine, dans quasiment tous les pays, il est interdit d'avoir des assemblées. Ils n'ont pas le droit de s'assembler dans ces pays pour le moment, et rien n'a encore changé. Aux États-Unis, nos congrégations se réunissent de nouveau. À 100%, dans certains cas, comme en temps normal. Pour certaines d'entre elles, c'est du 50%. Et pour les autres, cela fluctue. Prétendre que tout s'est bien passé ne serait pas exact. Cette situation nous a posé des défis, nous avons connu des moments difficiles. Cette situation a été inhabituelle. Mais quand les choses sont peu à peu rentrées dans l'ordre, nous avons repris nos réunions en groupe. Je ne pensais jamais devoir parler d'assemblée en groupe. Je pensais que c'était toujours le cas. Mais nous avons appris un nouveau vocabulaire. Mais dès que la situation s'est améliorée, les questions ont abondé. À quoi va ressembler la fête des tabernacles cette année? Les membres vont-ils voyager? Iront-ils à l'étranger? Pourrons-nous nous rendre en Grèce? Pourra-t-on aller en Europe pour la fête? Ira-t-on en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande pour la fête et dans quelle situation allons-nous nous trouver? On a même demandé s'il y aura une fête cette année. Toutes sortes de commentaires négatifs et même effrayants ont été affichés en divers endroits ces derniers mois. Les gens s'inquiètent et ont peur. Quand ils voient ce qui se passe dans nos pays et dans le monde entier. Nous avons traversé et traversons encore une période difficile et une dure épreuve. Et il est fait qu'avec ceux qui sont tombés malades ou sont décédés, bien des familles ont durement été éprouvées. C'est une dure épreuve, c'est réel. Quelques rares personnes dans l'Église sont décédées et leurs proches ont affronté cette situation éprouvante. Cela n'a donc pas été facile. Je ne peux pas dire qu'avec les quelques questions qu'on nous a posées, nous avons connu le pire. Cela n'a pas été le cas. Mais on nous a posé des questions légitimes. Nous nous sommes donc réunis régulièrement avec nos services ministériels, nos coordinateurs pour la fête, dans le monde entier. Nous avons eu des contacts réguliers avec eux tous, afin de savoir à quoi nous attendre pour la fête cette année. Nous avons donc jugé utile d'avoir une voix qui se prononce à ce sujet. À quoi la fête va-t-elle ressembler cette année? Comment va-t-elle se dérouler? À quoi devons-nous nous attendre? C'est donc ce que je veux faire cet après-midi. Ce ne sera pas du genre « fête à papa ». Pas ce que nous avons eu l'habitude d'avoir. Ce sera une fête différente. Alors que je m'adresse à vous, plusieurs changements ont lieu. En fait, la semaine dernière, on nous a informé que deux pays ont effectué des changements notoires. En Afrique du Sud, le président a soudain annoncé, il y a quelques jours, que toutes les restrictions pour les voyages étaient éliminées dans le pays. Nous allons donc pouvoir avoir deux sites de fête en Afrique du Sud pour les membres dans ce pays. Il y a une semaine, nous croyons qu'il faudra avoir une webdiffusion à partir d'un point central, tous les membres devant rester chez eux pour la fête. Cela a changé. Ils vont pouvoir célébrer la fête en groupe, à Ouvongo et au Cap cette année. Nous avons appris hier que le Ghana a modifié ses restrictions, apparemment du jour au lendemain. Il a été décidé, il y a un peu plus de deux jours, qu'au Ghana, une église pouvait s'assembler, pour autant qu'il y ait moins de 100 personnes en même temps et seulement pour 30 minutes. Telles étaient les restrictions. Nos réunions étaient en petits groupes dans ce pays. Nous avons environ 600 membres là-bas. Nous avions prévu un seul site, mais commencions à avoir plusieurs sites, à prévoir plusieurs sites. Or, hier, tout a changé. Le nombre de personnes n'est plus limité. Et nous ne sommes plus limités non plus sur la durée de nos réunions. Nous aurons donc une fête normale au Ghana avec plus de 600 personnes présentes. Il y a des changements. Les informations que nous avons à présent risquent de ne plus être les mêmes dans les 6 semaines qui nous séparent de la fête. Mais à quoi nous attendre à présent? Quelles sont les bonnes choses à prévoir cette année? Nous savons tous, du moins je le pense, que dans toutes les fêtes divines et les jours saints, c'est le spirituel qui est le plus important. Nous ne voulons rien manquer côté spirituel. Nous voulons nous en assurer, sans oublier le physique pour autant. Toutes les fêtes comportent un élément physique. Il y a un aspect physique au sabbat. On ne travaille pas. C'est l'élément physique du respect du sabbat. Quand on étudie les fêtes de l'Éternel, elles ont toutes un élément physique. Pour la Pâque, on l'observe le 14e jour du premier mois sacré. Ce n'est pas à nous de décider. Devrait-on s'assembler le matin ou l'après-midi? Elle a un aspect physique. Nous nous assemblons le soir, le 14 Nisan. Nous ôtons le levain de nos demeures pour les jours des pains sans levain. Pas besoin de levain pendant cette période de 7 jours. C'est l'aspect physique. Nous comptons 50 jours pour la Pentecôte. C'est l'élément physique. Nous reconnaissons, sans toutefois exiger qu'on joue de la trompette lors de la fête des trompettes, que nous entendons souvent quelqu'un sonner du chauffard ce jour-là. Certes, cela aussi comporte l'aspect physique de la réunion d'un peuple, d'une sainte convocation qui a lieu comme pour toutes les autres fêtes de l'Éternel. Puis nous avons le jour des expiations, nous jeûnons ce jour-là. Vient ensuite la fête des tabernacles. Pour cette dernière, nous disposons de plus d'informations que pour les autres fêtes de l'Éternel. Les aspects physiques de la fête des tabernacles étaient que vous deviez quitter vos demeures et séjourner dans une demeure temporaire, une cabane, dans le lieu où l'Éternel avait placé son nom. C'est la seule fête et le seul passage, bien qu'il en soit question dans Deutéronome 16, des offrandes, où il nous a dit de nous rendre dans le lieu où Dieu a placé son nom et d'y séjourner dans des demeures temporaires. C'est le côté physique de la fête. La fête n'a jamais été synonyme de vacances, pendant lesquelles on va où l'on veut. Et ça ne devrait jamais l'être. Il y a toujours eu un lieu où Dieu place son nom et où, quand nous pouvons aller à la fête, nous nous rendons. À ce stade, je puis garantir à ceux qui ne seront pas en mesure de s'y rendre en personne qu'ils ne seront pas oubliés. Ce ne sera certes pas du genre « fête à papa ». En fait, il y a trois groupes différents dans l'Église qui vont célébrer la fête cette année. Ceux qui se rendront dans l'un de nos sites et y assisteront aux assemblées, comme d'habitude, soit 85% de nos membres ici aux États-Unis. 15% ne pourront se déplacer. En temps ordinaire, il ne s'agit habituellement que de 5% d'entre eux. 15% qui ne seront pas en mesure de le faire cette année, soit pour des raisons de santé, ou du fait de leur âge, ou parce qu'ils craignent simplement de voyager ou d'être en groupe. Le premier groupe est celui qui se rendra à la fête, au lieu où l'Éternel a placé son nom, et assisteront aux assemblées comme ils l'ont toujours fait dans le passé. Le second groupe, comme je le disais, est celui qui, pour des raisons de santé, d'âge ou craignant de voyager ou d'être en groupe, resteront chez eux. Un troisième groupe est celui formé par ceux n'ayant pas le droit de s'assembler. Bien que ce ne soit pas le cas ici, c'est souvent le cas en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Si la fête débutait demain, pas un seul de ces pays pourrait avoir les membres se réunissant pour la fête. Cela leur est interdit. Ils prévoient de célébrer en ligne, par web diffusion, depuis plusieurs endroits, comme ils le pourront, et ils devront le faire de chez eux. Ce ne sera donc pas du genre fête à papa. Pas une fête comme dans les années passées. Nous nous demandions si nous allions aller en Europe. Nous nous disions, irai-je en Amérique du Sud? Vais-je aller au tel endroit? Et nous avions toutes sortes de lieux. Nous avions le choix entre plusieurs sites. Cette année, c'est différent. Mais je puis vous assurer que ceux qui ne pourront pas se déplacer, comme du fait de restrictions gouvernementales, ne seront pas oubliés. Ils pourront célébrer la fête, comme ils le peuvent. Il y aura une retransmission de tous les sites, et certainement en Amérique latine, pour tous ceux qui en ont besoin. Ce sera aussi le cas pour les Philippines, un autre endroit où les membres ne sont probablement pas autorisés à s'assembler en groupe. Si vous avez plus de 60 ans aux Philippines, si vous êtes ailleurs que chez vous, on vous arrête, car vous êtes vulnérable. Cela se passe aussi dans d'autres pays. Nous nous occuperons de tous les membres. Quel que soit leur cas, personne ne sera oublié. Nous enregistrons des sermons quasiment tous les jours au bureau et les envoyons d'avance pour qu'on les ait lors de la fête, pour son aspect spirituel. Et dans la mesure du possible, nous pourvoirons aussi à l'aspect physique, comme d'habitude, dans les lieux où Dieu aura placé son nom. Là où Dieu aura placé son nom. Il y a bien des années, l'Église a résolu la question de savoir qui décide où ces sites se trouvent. Elle a décidé que c'était de son ressort et non une décision individuelle. Ce n'est pas à un membre de décider où il va aller. Bien sûr, nous facilitons ce choix en offrant des retransmissions. Néanmoins, ces retransmissions ne remplacent pas les assemblées. C'est un substitut pour ceux qui en ont besoin. Mais cela ne remplace pas les assemblées. Établissons d'abord quelques principes de base. Reportons-nous à Matthieu 16. Matthieu 16 et le verset 18. Un verset qui nous est familier, mais qui établit notre identité. Nous ne devons jamais oublier qui nous sommes, car, le sachant, nous allons en savoir énormément plus sur ce que nous devons faire et où nous devrions aller. Par contre, si nous ne savons pas qui nous sommes, nous nous égarons. Matthieu 16, 18. C'est Christ qui parle. Je te dis que tu es Pierre. Et à mon avis, il regarde Pierre, le nomme, puis il se désigne, lui, Christ, et dit, « Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Christ est le bâtisseur et le chef de l'Église. C'est lui qui en est responsable. C'est la première fois que le mot « Église » apparaît dans la Bible, dans le Nouveau Testament, évidemment. On m'a toujours dit, et je le crois, que la première fois qu'un mot est utilisé est significative, car il nous en dit long sur ce qu'il faut savoir. Que voulait dire Christ? Le sens du mot grec pour « église » est « ecclesia ». D'après Thayer, il décrit un rassemblement de citoyens convoqués chez eux dans un endroit public, une assemblée. Nous avons toujours enseigné que l'église n'est pas un bâtiment, que c'est un groupe d'individus qui sont assemblés. C'est la vraie définition du mot « église ». Je ne pense pas que Christ ait déclaré bâtir son Église à partir du jour de la Pentecôte, avec l'effusion miraculeuse du Saint-Esprit, le baptême de 3000 personnes, ait enduré le martyre de tous les apôtres, sauf un, ait assisté à toutes ces tribulations et la mort de tant d'autres, pour déclarer en 2020 que l'Église et tous ses membres ne sont plus nécessaires. Je trouve cela impensable. Si nous sommes l'Église, ce que je crois, nous avons des responsabilités. Un merveilleux privilège. Nous sommes le corps de Christ. Nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres, de nous aimer les uns les autres, d'être ensemble et de nous réjouir ensemble. C'est ainsi que l'Église a fait ses débuts. Nous voilà en 2020 subissant une situation inhabituelle, sans précédent, qui nous affecte et dont nous ne sommes pas responsables. Ces restrictions nous sont imposées. L'éloignement social ou la distanciation sont des termes qui nous étaient inconnus. Je ne suis toujours pas sûr de leur sens. Je sais ce que ces mots veulent dire, mais on nous dit qu'il faut garder ses distances sans pour autant être distant. Ce sont les mots qu'on emploie. Je n'aurais jamais imaginé voir les gens porter des masques, comme à présent. Je me suis rendu en Asie il y a quelques années, alors que la grippe aviaire faisait ses ravages dans ce continent. Quand on atterrissait, avant de quitter l'avion, on le vaporisait avec un désinfectant. Et quand on venait de s'installer dans l'avion, on faisait la même chose. À l'aller comme au retour, et quand on descendait de l'avion, on devait marcher sur un tapis mou qui devait contenir un désinfectant pour vos chaussures. Et quand vous arriviez, on prenait votre température. Et je me souviens qu'à l'époque, pratiquement tout le monde portait un masque. Mais c'était là-bas, à une autre époque. Mais pas ici. Je n'aurais jamais pensé qu'on verrait cela ici. Quand je vais à l'aéroport, à présent, le masque est obligatoire. Quand je prends un avion, tout le monde doit porter un masque. Nous allons à Denver la semaine prochaine pour le départ en retraite de M. et Mme Neff après plus de 50 ans dans le ministère. Dans l'avion, tous les passagers vont avoir un masque. Quand nous atterrirons, tout le monde dans l'aéroport aura un masque. nous ne pourrons pas entrer dans notre hôtel à moins d'avoir un masque. Quelle différence! Là où nous vivons, ce n'est pas ce qu'on voyait il y a seulement 8 mois. Qui aurait imaginé? Quoi qu'il arrive, une chose est certaine. La Bible n'a pas changé. Les Écritures sont les mêmes. Nous devons les suivre, nous autres chrétiens, et faire ce qu'elle dit à l'approche de la fête des tabernacles. Les Écritures n'ont pas changé. Dès la Genèse, nous pouvons déduire que dès le commencement, quand l'univers a été créé, Dieu a dressé des plans pour les fêtes. Le mot traduit par « fête » se trouve dans le premier chapitre de la Genèse. Genèse 1. Dans plusieurs versions, il est traduit par « saison » dans Genèse 1. Dans d'autres, il s'agit de « fête ». Le soleil et la lune allaient servir à désigner les saisons et les fêtes. Moïse est l'auteur de la Genèse. Et il a aussi écrit le Lévitique. Il est clair qu'il l'a fait après coup. Mais devrait-il planer le moindre doute que le Tout-Puissant avait prévu quelque chose dès le commencement? On parle d'un plan de salut, de la famille divine. Et Dieu n'a rien fait au hasard dans ces domaines. On s'aperçoit que dès le commencement, Dieu avait des plans. Il avait prévu des fêtes et des moments de culte. Et l'on dénote cela dès la Genèse. Caïn et Abel firent tous deux une offrande à un moment précis. Dans Genèse 4.3, il est écrit « au bout de quelque temps », pour le moment où Caïn et Abel firent leur offrande. Il s'agit en fait, dans l'original, d'un moment précis dans l'année. C'est aussi un moment précis que Noé fit une offrande. Abraham rencontra Melchizedek qui offra du pain et du vin. Mais aucun culte individuel ou collectif n'existait avant qu'il y ait Israël. Mais les notions étaient présentes. Le Dieu qui a créé la terre et tout mis en mouvement dans l'univers avait un plan. Avant même que tout débute, avant que n'ait lieu ce que nous appelons le commencement tel que nous le connaissons, et un culte était prévu. Il était prévu qu'on s'adresse à lui pour qu'il nous guide pour entrer dans sa famille. C'est très important. Reportons-nous à Lévitique 23, où se trouve la liste des fêtes de l'Éternel. Les 7 fêtes s'y trouvent. Lévitique 23. On constate que, pour ce qui est de la fête des tabernacles, il y a 3 types de passages fondamentaux, et nous allons parler des 3 aujourd'hui. 3 types de passages qui nous montrent ce que représente la fête des tabernacles, physiquement et bien sûr spirituellement. Lévitique 23, verset 1. L'Éternel parle à Moïse, il dit « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations, voici quelles sont mes fêtes. » Le mot « fête » en hébreu est le mot « moed », M-O-E-D, qui signifie « période désignée » ou « date précise ». Le mot traduit par « fête » est le même que dans Genèse 1. L'idée de « fête » est celui de période désignée en présence de Dieu. On peut dire qu'il s'agit en quelque sorte de rendez-vous avec Dieu. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation, nous ne ferons aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Cela débute par un sabbat. Il est en premier question du sabbat. C'est ce qui est mentionné en premier. Le sabbat est mis en relief pour chaque semaine. On remarque que Dieu veut qu'on l'adore le jour du sabbat. Ce dernier est la première période que Dieu désigne pour le culte. Il y a évidemment un élément physique à ce jour. Nous ne travaillons pas ce jour-là. Nous allons à l'assemblée, nous nous réunissons pour une sainte convocation chaque sabbat. Ensuite, au verset 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé, Moed ici aussi. Et une liste est donnée, il y avait un élément physique qu'Israël devait respecter. La compréhension spirituelle vient plus tard, quand on y regarde de plus près. Il y a une vue d'ensemble, un tableau d'ensemble représenté par ces jours. Pour Israël, c'était un peu différent, mais c'était des moments de culte ne devant jamais être oubliés. Ils n'étaient pas seulement physiques, c'était toujours des jours de culte. Après la liste de toutes les fêtes, nous en arrivons à la fête des tabernacles. Pour cette dernière, nous trouvons plus d'informations sur son aspect physique que pour les autres fêtes. Il en est quelques-unes pour la Pentecôte, mais peu pour les autres. Pour la fête des tabernacles, Dieu donne à Moïse beaucoup d'informations sur la manière physique de la célébrer. Dans l'Ancien Testament, l'Exode, le Lévitique et le Deutéronome illustrent pour nous la manière d'observer la fête à partir d'il y a 3500 ans. Lévitique 23, verset 39. « Le 15e jour du 7e mois, vous vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. » Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes. Et verset 43. Afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous les tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les fêtes de l'Éternel. Ces fêtes sont toutes uniques, mais ont un élément physique. Et nous comprenons leur aspect spirituel. Cela ne veut pas dire que l'aspect physique soit insignifiant, car ce n'est pas le cas. La fête des tabernacles est la seule fête célébrée de cette manière. Avec, comme l'indique Deutéronome 14, l'idée qu'il faut aller où Dieu a placé son nom. Il y a donc avec cette fête des préparatifs qu'il n'y a pas avec les autres fêtes. Comment célébra-t-il la fête? Tout ce que nous savons, c'est ce qui est écrit ici. Il est un tantinet difficile d'imaginer comment les Israélites ont fait pendant les 40 ans qu'ils ont erré dans le désert. Ont-ils construit des cabanes? Ou bien, étant dans des tentes, y sont-ils demeurés? Nous l'ignorons, il n'existe aucune information, que je sache, sur la manière dont ils ont observé la fête pendant ces 40 ans. J'ose croire qu'ils l'ont célébrée. Certains érudits prétendent que les Israélites ne l'ont jamais observée avant d'entrer dans le pays de Canaan. Ils prétendent qu'ils ne l'ont pas fait car ils vivaient déjà sous des tentes, etc. Diverses explications sont avancées, mais je me contenterai de dire que si Dieu l'a ordonné, ils ont dû la célébrer. À mon avis, ils l'ont célébrée. Comment? Je l'ignore. Mais nous savons qu'à une époque ultérieure, ils l'observaient. La fête était observée par les Juifs, bien qu'après qu'Israël soit entré dans la terre promise. C'est clairement indiqué, nous le savons. La Bible l'indique. Elle décrit aussi des époques où ils l'ont fait. On constate que non seulement ils l'observaient à ce moment-là, mais aussi, par la suite, ils se rendaient au temple, comme au premier siècle de notre ère, à l'époque de Christ. Ils se rendaient au temple, ils allaient à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Au fil des siècles, les informations sont plus difficiles à trouver pour ce qui est du respect de la fête au fil des années. On sait très peu à propos du Moyen-Âge, il ne fait aucun doute que ces informations sont perdues. On s'attend à ce que les jours saints aient été observés. Il y a des allusions dans l'histoire, mais on ne sait pas exactement comment ils l'ont fait. Dieu nous a dit de quitter nos demeures pour des demeures temporaires et de nous rendre là où il a placé son nom. Une fois encore, c'était Jérusalem du temps où le temple s'y dressait. Ce dernier fut détruit en 70 de notre ère. Qu'est-il advenu de l'Église? Qu'a-t-elle fait en ce sens? Les informations sur cette période sont rares. Mais reportons-nous à Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Les trois passages principaux sont Lévitique 23, Deutéronome 14 et Colossiens chapitre 2. Mais lisons d'abord Deutéronome 14. Qui fournit d'autres informations sur la manière d'observer la fête. Deutéronome 14. À partir du verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile. La dîme de ton blé, de ton moût et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta lime à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras la dîme contre l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Voilà donc comment la fête doit être observée. Nous étudions un peu plus les détails aujourd'hui. Nous économisons une dîme de fête pour aller là où Dieu place son nom et nous pouvons célébrer la fête des tabernacles. Ce sont là des détails physiques, mais ils font partie des instructions fournies à propos de la fête. Comme je le disais plus tôt, nous ignorons comment les Israélites observaient la fête. Il y a plus d'informations disponibles sur l'époque de Christ. Néanmoins, le temple fut détruit en l'an 70. Que fit l'Église après cela? Reportons-nous maintenant à Colossiens chapitre 2, où se trouvent des informations que Paul communiqua aux membres de l'Église à Colosse, de l'Église de Colosse. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, ou laissez cela au corps de Christ plus exactement. Que personne ne vous juge à propos de ces célébrations. Il les observait donc. Nous ignorons ce que Paul voulait dire à propos de la nouvelle lune. Il est difficile de savoir ce que les Colossiens faisaient à ce sujet. Ce que nous savons, c'est que la nouvelle lune n'est pas un sabbat, que ce n'est pas une fête. Ce qu'ils faisaient quand ils célébraient la nouvelle lune, nous l'ignorons. Mais nous savons qu'ils célébraient quelque chose, que ces événements préfigurent des choses à venir. C'est là l'aspect spirituel des fêtes. Ce qu'on sait, c'est que quand on arrive à une époque après le Moyen-Âge, il y avait des sabbataires et des chrétiens en Angleterre qui observaient les fêtes. Ils célébraient la Pâque. Des documents en font mention. Ils observaient les jours saints printaniers. Mais on sait peu de leur célébration sur la fête des tabernacles. M. Armstrong, par la suite, entre en contact avec l'Église de Dieu du septième jour. Cette dernière n'observe pas les fêtes de l'Éternel. Ils célèbrent la Pâque, mais pas les fêtes. M. Armstrong et son épouse se mettent à observer les fêtes, toutes les fêtes, en 1927. Eux seuls, pendant plusieurs années. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont supposés faire à ce moment-là, avec la fête des tabernacles. En 1933 débute l'émission radiophonique Radio Church of God. Et à ce moment-là, la fête des tabernacles est observée par les membres qui restent chez eux dans la ville de Eugene, dans l'Oregon, et ils ont des assemblées essentiellement le soir. Cela changea en 1945. Intéressant. Il y a 75 ans que ce changement eut lieu. Et quand il se produisit, quand le passage de l'Écriture qui dit que l'on doit se rendre au lieu où l'Éternel a placé son nom et célébrer la fête des tabernacles fut pris à la lettre, en 1945, ce changement eut lieu. Il y a 75 ans que cela eut lieu cette année. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1945, la fête des tabernacles eut lieu, comme cette année, d'un sabbat à un autre. Une lettre fut envoyée à la congrégation d'Eugene dans l'Oregon qui avait alors 60 membres en 1945. C'est étonnant qu'il n'y avait que 60 membres à l'époque et pourtant l'émission The World Tomorrow avait 1 million d'auditeurs. Et la Plain Truth, cette année-là, avait 110 000 abonnés. Mais l'Église comptait 60 personnes en 1945. La situation changea. Voici la lettre qui fut écrite à la congrégation à propos de la fête des tabernacles en 1945. Soyez joyeux, réjouissez-vous, car l'Éternel va faire de grandes choses. Oui, nous pouvons nous réjouir. Dieu nous a fourni un endroit formidable pour célébrer la fête des tabernacles. Nous allons pouvoir l'observer comme au temps biblique. C'est bien une nouvelle formidable. Presque tous les membres qui le savent sont ravis que Dieu ait rendu cela possible. Nous allons donc louer pour toute la durée tout le joli site de Belknap Mineral Springs, l'un des meilleurs centres de villégiature de montagne en altitude au McKinsey, aux jolies cascades, à une centaine de kilomètres de Eugene. Nous serons coupés du monde, Belknap se trouve à 2 kilomètres de l'autoroute Mackenzie, dans la nature majestueuse et inspirante de Dieu, loin du bruit et de l'agitation de la civilisation humaine, au milieu de la nature de l'Éternel où l'on ne trouve que beauté. Veuillez me répondre sans tarder, par courrier si possible, pour votre réservation. Prenez le taureau par les cornes, comme on dit. Décidez de venir, comme l'Éternel l'ordonne, et engagez-vous à le faire. Les prix des chalets et des chambres comprennent une charge pour l'usage du site, de la salle à manger et de la cuisine, et le grand hall pour les assemblées. Chacun devra donc payer sa part pour les frais d'ensemble. 15 chalets. Apportez draps et couvertures. $2.50 par chalet à lit double. $3 par jour par chalet à 2 lits. 30 chambres d'hôtel, toutes meublées. 1 par chambre. $2.50 par jour, $3 pour 2 personnes par jour. Arrivé vendredi, le 21 septembre, 31 septembre pour le départ, soit 9 jours à Belknap, d'écart partent d'Eugène tous les jours de 14 heures. On vous dira où aller. Écrivez dès que possible. C'était différent. 1945 fut une fête des tabernacles différente pour tous les membres d'Eugène. Depuis, l'Église n'a cessé d'observer la fête en allant à un site et en vivant dans des demeures temporaires. Car, voyez-vous, le physique a un sens. Le physique a affaire avec la manière dont nous adorons, comme toujours. C'est donc ce que nous avons fait pendant 75 ans dans l'Église de Dieu, dès cette année-là. J'ai lu l'autobiographie de M. Leroy Neff, où il décrit sa première fête en 1953, ou plutôt en 1952, à Sigler Springs, et en 1953 à Big Sandy. Quand Big Sandy est devenu disponible en 1953, il y a eu un lieu où tous pouvaient se rendre pour célébrer la fête. Et c'est là qu'on allait, en 1953, tout au début. M. Neff parle d'une distance de 4000 kilomètres aller pour lui et sa famille, et il décrit ce que cela représentait. Toutes les journées étaient longues. Les sermonnettes, les annonces, la musique et les sermons étaient tous longs. C'est ce qu'il écrit. Néanmoins, c'était le meilleur moment de notre vie, et en partant pour rejoindre l'autoroute 80, nous avions hâte de revenir l'année suivante. Il évoque les aspects physiques et spirituels de la fête. C'est puissant ce qu'il écrit. Puissant. Big Sandy n'était pas nécessairement un endroit que j'aurais choisi pour des vacances. C'est néanmoins là que nous avons célébré la fête pendant plusieurs années. Après avoir pendant 10 ans célébré la fête chez nous, car papa ne voulait pas que nous y rendions. Ensuite, évidemment, il décida de commencer à aller à l'église, lui qui n'avait jamais porté un costume, ni été à la moindre église. Il alla s'acheter un costume d'occasion dans une boutique de vêtements usagés pour 25 centimes, une cravate pour 10 centimes, et le voilà parti pour la fête. Stupéfiant. Il était sidérant de voir autant de gens, le peuple de Dieu, et de faire connaissance de tant de personnes, et de camper avec tous ces gens, des milliers de personnes qui se trouvaient dans le même camping à Big Sandy. Un certain nombre de personnes croyaient pendant des années que, quand nous étions à Houston, que c'était le seul endroit pour la fête. Et quand Big Sandy a cessé d'être un site, plusieurs ont pleuré, car pour eux, rien ne pouvait être comparé à ce site. Aucun autre site ne valait celui de Big Sandy. Mais la fête était ailleurs. Les membres ont pu aller ailleurs, faire des choses différemment. On ne campait plus. On allait dans des hôtels. Dans des hôtels. Cela a changé. Éphésiens chapitre 2, Paul écrit à propos de l'Église, cette Église occupe une place importante dans nos vies. J'ai lu une citation récemment que j'ai trouvée excellente. Voyons-nous, nos autres chrétiens, le monde avec l'optique de l'Église, ou voyons-nous l'Église comme le monde la voit? L'Église, au lieu d'être ce qui compte le plus, plutôt que d'être au centre de tout, peut être remplacé par d'autres choses, de sorte que nous voyons l'Église, et c'est le point de vue de l'auteur, de sorte que nous voyons l'Église avec l'optique du monde, au lieu de voir le monde avec l'optique de l'Église. Éphésiens chapitre 2, Paul parle de l'Église. Verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » La maison de Dieu, dans le grec, c'est dérivé du terme pour famille. Il s'agit d'une famille, dans un foyer, il s'agit d'un foyer. Nous sommes membres de cette famille. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Paul parle de l'Église et de sa raison d'être, de notre destinée en tant qu'Église. Verset 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Une fête est un rendez-vous avec Dieu. Nous avons rendez-vous avec Dieu chaque sabbat. Nous avons un rendez-vous avec Dieu, bien sûr, toutes les fois que nous l'adorons. Ne l'oublions pas. C'est très important. Nous vivons dans un monde où certaines personnes prétendent être religieuses ou spirituelles, mais ne vont à aucune église. Et quand je dis cela, je généralise. Mais ces gens-là prétendent ne pas avoir besoin d'une église. C'est le raisonnement qu'elles se tiennent. Ce que je veux dire, ce n'est pas qu'à chaque fois que vous parlez du monde, c'est toujours différent. Parfois, comme je le disais, nous risquons de voir l'église avec l'optique du monde. Nous pouvons refléter certaines des attitudes qu'a le monde et nous les apportons à l'église. Une enquête effectuée il y a 2 ans en Angleterre a révélé que 52% de ses habitants n'ont aucune religion. En 1983, le pourcentage des personnes n'ayant aucune religion était de 31%. C'est maintenant plus de la moitié des gens. Les chiffres sont analogues aux États-Unis et dans la plupart des pays occidentaux. Pratiquement tous les pays sont à présent moins religieux qu'il y a une génération. Les parents non religieux transmettent leur manque de foi à leurs enfants. Mais hélas, les parents trop religieux n'ont que 50% de chances de transmettre leur foi à leurs enfants, d'après l'enquête du School of Attitude, effectuée il y a 2 ans, en 2018. On se dit que Dieu est un architecte cosmique qui a créé l'univers, mais qui n'a aucun rapport avec lui. On se dit en somme que Dieu est comme un maître horloger qui a fabriqué une jolie montre qui fonctionne si bien qu'il la laisse fonctionner toute seule, n'ayant rien à faire avec tout ce qui se passe. C'est l'optique courante. En fait, c'est souvent appelé humanisme séculier ou même déisme. Quand vous croyez en Dieu, croyez qu'il existe, mais n'est pas impliqué dans ma vie et ne joue aucun rôle dans mes activités quotidiennes. Nous voyons l'Église avec l'optique du monde. Il va sans dire que l'humanisme séculier est une philosophie basée sur le raisonnement humain, le laïcisme, et le naturalisme philosophique qui rejette tout dogme religieux comme fondement moral et du comportement. L'humanisme séculier postule que les humains sont capables d'être moraux sans être religieux. Cette conception gagne du terrain, surtout en Occident, et elle a beaucoup affecté notre société occidentale. Dans ce monde qui change rapidement, le rejet de Dieu et les raisonnements humains affectent tout le monde et nous affectent. L'Église essaie de suivre les directives bibliques. C'est ce que nous essayons de faire, qu'il s'agisse de la fête des tabernacles ou d'autres choses. On croit souvent que Dieu n'est pas impliqué dans nos vies, qu'il est quelque part, ailleurs, loin de nous, et qu'il ne joue aucun rôle significatif dans nos vies. Nous avons nos carrières, notre travail, nos familles, des êtres que nous aimons, et cela devrait nous suffire. Pourquoi aurait-on besoin d'adorer Dieu, se dit-on? Ou pourquoi devrions-nous aller à la fête des tabernacles? Ou pourquoi devrions-nous, dans le cas de ceux qui resteront chez eux cette fête, pour la fête, faire un effort? Est-ce vraiment important? Les 3 passages, Lévitique 23, Deutéronome 14 et Colossiens 2, nous parlent tous de la fête. Ils nous content une histoire qui a une grande valeur pour nous. Une histoire d'un Dieu qui est activement impliqué dans nos vies. L'opposé du déisme, le contraire de l'humanisme séculier. Dieu a une place dans tout ce que nous faisons. Quand nous nous assemblons, avons rendez-vous avec lui, il est impliqué. Si nous ne le croyons pas, nous n'avons qu'à faire ce qui nous plaît. Faire de la fête ce que nous voulons en faire. Cela aurait peu d'importance. Mais l'Écriture a fort à dire à ce sujet. Prenons un exemple, Néhémie 8. On remarque dans l'Écriture, pas toujours, mais il y avait un renouveau, quand il y avait un renouveau dans l'ancien Israël, quand le peuple retrouvait son bon sens et revenait à Dieu après s'être égaré et avoir sombré dans l'idolâtrie et toutes sortes d'autres péchés, quand il revenait à Dieu, c'était souvent au moment ou dans la période, du moins à plusieurs occasions, d'une fête divine. Les fêtes ont été prévues non seulement pour nous conter une histoire, mais aussi pour nous ramener à Dieu. Et elles devinrent importantes, Néhémie chapitre 8 est l'un de ces exemples. Notez comment cela fonctionne. Cela nous donne un avant-goût du sens de toute cette saison et de ce qu'elle nous enseigne. Néhémie chapitre 8, verset 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et proclamer cette publication dans toute leur ville et à Jérusalem. Aller chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrrhe, des rameaux de palmiers, des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes, comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Partout à Jérusalem, il y avait ces cabanes où ils allaient vivre pendant 7 jours pour la fête des tabernacles. Verset 17. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de grandes réjouissances. Un changement eut lieu pour Israël avec cette célébration pendant la fête des tabernacles. Bilan s'était écoulé depuis l'époque de Josué, entre Josué et Néhémie. Est-ce à dire que les enfants d'Israël n'observèrent pas la fête pendant toutes ces années? Non. D'après ce que disent pratiquement tous les commentaires bibliques, les Israélites ne le firent pas avec autant d'émotion. Il y a eu des années où ils se sont contentés de le faire par routine, du genre « allons à la fête, allons à la cabane, à moins que nous n'allions pas à la cabane, mais que nous fassions peut-être telle ou telle chose ». Mais cette fois, ils la célébrèrent comme il faut et avec conviction. Il est écrit que rien de pareil ne s'était produit pendant 1000 ans en Israël. La fête des tabernacles revêtit une telle importance et elle a eu sur eux une profonde influence. À l'approche des fêtes automnales, nous avons 4 fêtes qui approchent. Trompette, expiation, tabernacle et, bien sûr, leur dernier grand jour, au 8e jour. Nous savons qu'il y a ici une leçon spirituelle importante. Nous savons, d'après Colossiens 2, nous avons hâte de faire quelque chose. Il est facile d'identifier la sonnerie des trompettes au retour de Christ. Nous pouvons identifier la détention de Satan et le jour des expiations, l'expiation de tous les péchés qui va être faite. Puis, bien sûr, la fête des tabernacles, la période intermédiaire pendant laquelle Christ va régner sur cette terre, pendant 1000 ans. Ce n'est pas encore le moment pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Cette terre va disparaître. Nous allons être sur terre pour célébrer pendant le millénium et nous fêtons cela pendant la fête des tabernacles. Mais c'est une période transitoire entre ce monde qui va cesser après 1000 ans et le début de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre quand le Père descendra. C'est ce que raconte l'histoire décrite. Cette période-là, le millénium, sera un succès. Quand Israël quitta l'Égypte et se dirigea vers la terre promise, les choses ne se passèrent pas tellement bien pour eux. Mais pendant le millénium, Dieu va s'assurer que tout ira bien. Christ sera présent. Lisons Actes chapitre 3, c'est spirituel. Nous ne devons pas oublier l'aspect spirituel. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Que vos péchés soient effacés afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur que l'envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Des temps de rétablissement de toutes choses. Le millénium, ce que nous fêtons pendant la fête, c'est la partie spirituelle à ne pas oublier. Et je répète cela pour ceux qui ne pourront pas se rendre à la fête cette année. Nous le savons déjà d'après nos effectifs. Certains ne pourront pas venir, mais la majorité le pourra. La plupart des membres s'y rendront. Il ne faut pas minimiser le fait que nous faisons quelque chose que Dieu nous a dit de faire. L'idée que l'aspect physique n'est pas important contredit l'Écriture. Il y a un aspect physique à la fête, de même qu'il y a aussi un aspect spirituel. Nous devons le reconnaître en tant que peuple de Dieu, reconnaître et comprendre la signification de ce que nous faisons. Nous devons nous demander, comme c'est souvent le cas, pourquoi nous sommes ici, la raison de ce que nous faisons. N'acceptons pas la position quasi déiste que Dieu existe, que nous croyons en lui et que si nous avons une rude épreuve, nous pouvons nous adresser à lui et il fera peut-être quelque chose. Du point de vue de Dieu et de sa famille, Dieu ne doit-il pas se situer au cœur de tout? Que nous travaillions ou que nous jouons à quelque chose, ou fassions des études, ou n'importe quoi d'autre, ne doit-il pas être le point de mire? Comme je le disais, les choses ont changé, et je tiens à parler de plusieurs des changements que nous allons constater. Soyons clairs, la technologie nous permet d'observer la fête chez nous. La technologie a rendu cela possible, et cette année nous allons émettre de tous nos sites. Mais est-ce ce que nous pouvons faire de mieux? Si c'est le cas, soit. Cependant, comme c'est toujours le cas, la technologie a ses inconvénients. Nicholas Carr a écrit un livre il y a quelques années, The Shallows, à propos des effets de l'Internet sur notre cerveau. Il écrit ce qui suit. Une chose est claire. Sachant ce que nous savons sur l'adaptabilité du cerveau, s'il vous fallait inventer un moyen de recâbler nos circuits mentaux le plus vite et le plus efficacement possible, vous finiriez probablement par concevoir quelque chose qui ressemble à l'Internet. L'effet de l'Internet sur nos vies est notre inaptitude croissante à écouter, à nous concentrer et réfléchir profondément. De nombreuses études ont confirmé qu'en cette ère de l'Internet, utiliser la toile facilite énormément l'acquisition d'informations, mais rend bien plus difficile le genre de concentration requise pour savoir des choses. Et j'ajouterais, nous empêche de bien connaître quelqu'un, vu l'anonymat de l'Internet. Notre pays connaît ce problème dans l'éducation de nos enfants. Peut-on le faire en ligne? On le pense ou on le nie? Que les choses sont différentes. La technologie nous aide bien, mais elle ne peut remplacer, je dis bien remplacer, ce que Dieu attend de nous quand il s'agit de nous aimer les uns les autres, de nous soutenir, de nous aider réciproquement et d'apprendre à nous connaître les uns les autres. Que le monde est différent. À nos débuts, des chaluts étaient loués à Belknap Springs, si vous étudiez comment l'Église célébrait la fête. Mais dès qu'un terrain nous a été offert à Big Sandy, tout le monde campait. C'était un grand changement. Si vous viviez en Oregon, vous deviez vous rendre au Texas. Et c'était pas 100 kilomètres de distance. Ma famille et moi n'avions jamais campé. Nous avions acheté notre première tente et du matériel qui était encore dans son emballage quand nous arrivâmes à Big Sandy. Nous ne l'avions jamais utilisé. Jamais dressé une tente auparavant et nous assistâmes à notre première assemblée en février 1962. La différence entre observer le sabbat chez soi, il n'y avait évidemment pas d'Internet ni rien de ce que nous avons à présent, mais observer le sabbat à la maison pendant 10 ans, même étant enfant, au lieu d'assister à une assemblée de l'Église, c'était comme la nuit et le jour. Incomparable. C'est plus facile aujourd'hui, il y a Internet, nous faisons le nécessaire, mais nous ne devons pas oublier que ce qui est important. L'Église grandissant, nous avons ouvert d'autres sites, et quand nous n'avons plus eu Big Sandy, nous avons ajouté des hôtels, des maisons, des chalets. Certains pensaient que, pour observer la fête, il fallait camper. Il y en avait toujours qui faisaient cela. Cette fête sera unique. Mais nous allons la célébrer, comme c'est ordonné, et selon notre situation. Nous avons hâte de connaître l'époque où Christ régnera sur la terre. C'est plus important. Nous devrions pratiquer l'aspect physique, vivre dans des demeures temporaires. Mais si c'est impossible, et ce sera le cas pour certains, nous leur fournirons le spirituel. Le physique sera certes différent. À ce stade, à quoi la fête va-t-elle ressembler cette année? Tous les sites que nous allons utiliser exigent le port de masques et un certain éloignement entre nous. Je ne pense pas que cela va changer d'ici la fête, dans les 6 prochaines semaines. Les sièges devront être espacés. Il faudra porter un masque en entrant, en sortant et en fraternisant dans les halls. C'est ce qu'exigent les divers États, les villes ou les comtés. C'est souvent pour éviter tout risque ou éviter tout procès que les établissements l'exigent. La semaine dernière, 4200 procès ont été intentés du fait que certaines personnes se sont rendues dans un commerce où tous ne portaient pas de masque ou ont fait les emplettes sans masque. Les risques légaux sont énormes pour certains établissements. Beaucoup d'établissements où nous irons craignent d'avoir des ennuis. Nous ignorons si cela va changer d'ici la fête. Nous avons aussi l'exemple de Lancaster, où le gouverneur a récemment changé toutes les restrictions et a annoncé que dorénavant, pas plus de 50 personnes peuvent s'assembler et des personnes venant de certains États ne peuvent pas venir. Si vous venez de certains États, vous devez vous isoler pendant 2 semaines. Nous avions 400 personnes d'inscrites pour Lancaster. On nous dit que, d'après le gouverneur, les églises en sont exemptes. Quand nous sommes allés voir notre hôtel, c'est ce que nous leur avons dit. On nous a répondu, vous êtes exempt, mais nous ne le sommes pas. Les églises en sont exemptes. Mais si vous louez un établissement, eux sont bloqués. Nous sommes donc toujours en pourparlers. Ce qui me surprend, c'est que dans d'autres régions, comme en Amérique latine, avec toutes les difficultés qu'ils ont côté santé, beaucoup n'ont pas de médecins. Et le port d'un masque, pour eux, n'est rien de plus qu'une simple précaution supplémentaire. Ils ont du mal à comprendre pourquoi chez nous, aux États-Unis, c'est devenu une question politique, alors que pour eux, ce n'est pas toute une affaire, et ils doivent, peu importe leur situation, ne pas sortir. J'apprends toujours l'espagnol. Mon professeur est au Guatemala. Nous communiquons via Skype. Dans ce pays, si vous sortez de chez vous sans porter de masque, on vous arrête. Elle me dit que pour les gens, que les gens respectent cela. Car pour eux, c'est moins risqué. Parce que pour eux, ce n'est pas politique. Cela n'implique pas un gouvernement contre un autre. L'idée que dans notre pays, et peut-être aussi d'autres pays, la politique s'en mêle à profusion, les sidère. Ils ont du mal à comprendre cela. Pendant la fête, nous aurons des musiques spéciales et des chants. Ces morceaux sont pour la plupart en cours d'enregistrement par une chorale virtuelle. Je pense que nous aurons les meilleures musiques spéciales à chaque site, peut-être les meilleures produites. Il y aura aussi des solos. Ce sera différent, mais ce sera la fête. Et ça sera bon. J'ai remarqué au fil des années que parfois, pour ne pas dire souvent, nous autres êtres humains trébuchons sur des petits riens. On ne trébuche pas sur un mur, on ne trébuche pas sur un arbre dressé et pas davantage sur une maison. On trébuche sur un caillou ou un dénivellement. Combien de fois, assis dans un restaurant, n'ai-je pas constaté cela? C'est indiqué, il y a une petite marche, et vous êtes assis là et vous voyez les gens trébucher, bien qu'il y ait une pancarte les avertissant. Nous trébuchons sur des choses, des petits riens. Soyons prudents. Il semble que nous trébuchons sur des peccadilles. Il y a bien des années, je coordonnais la fête à Cape Cod. C'était ma première année en tant que coordonnateur en 1981. Les 20 années suivantes, j'ai coordonné d'autres sites, mais c'était la première fois. Et tout ce qui risquait de ne pas bien se passer se passa mal. Ce fut une année très difficile. Il fallut congédier ceux qui apportaient le grand récepteur. À l'époque, nous avions un gros camion qui apportait ce récepteur pour la transmission par satellite. Nous avions une retransmission en direct pour M. Armstrong. Et ces gens-là étaient arrivés une heure après que l'assemblée ait débuté. Une heure plus tard. Nous ne pûmes pas avoir d'image. Nous pûmes l'entendre, mais c'était effroyable. Je dus dire à ces gens-là, « Vous n'avez pas fait votre travail. Vous êtes renvoyés. Nous emploierons quelqu'un d'autre. » Il me fallut trouver quelqu'un d'autre pour le dernier grand jour. C'était très difficile. À l'époque, après la fête, on remplissait un sondage. Nous avions 6 personnes à Cape Cod. Et quand tous ces sondages arrivèrent remplis, je me dis un peu naïf que j'allais les lire immédiatement. à chaque page, et je ne veux pas exagérer, mais il y avait des plaintes. Et apparemment, rien n'avait fonctionné comme prévu, d'après l'enquête. Certes, nous avions eu des problèmes. Le premier jour de la fête était le plus chaud qu'ils aient eu à Cape Cod. Le bâtiment était en métal. C'était une arène de hockey et il faisait très chaud en octobre. On n'avait jamais vu ça. Imaginez, on me disait, il faisait trop chaud dans cet auditorium. Que pouvais-je y faire? Et les gens se plaignaient. Je ne veux pas dire qu'on ne devrait pas faire des remarques sur ce qui ne va pas. Je ne pense pas que c'était le cas non plus, mais je me contente de vous exposer mon point de vue. Beaucoup de plaintes avec 6 000 personnes. Un individu se plaignit de son logement. C'est légitime. Il n'y avait pas de grands hôtels à Cape Cod. Il y avait toutes sortes de petits hôtels ainsi que des chalets, des maisons individuelles. Dans l'ensemble, tout alla bien. Un individu s'occupait des logements pour nous. Il tenait une agence, il n'était pas dans l'église. Il m'appela un jour et il me dit « Il faut que vous veniez, j'ai quelque chose à vous montrer. » La fête venait de se terminer la veille. Je m'y rendis, il m'emmena dans ce petit hôtel et me montra une chambre saccagée. Il me dit que c'était là qu'avaient séjourné les Duschmok. C'est pas leur vrai nom, mais je connaissais ces gens-là. Il me dit qu'ils n'étaient pas contents parce que l'endroit n'était pas propre. Ils l'ont donc saccagé avant de partir et de choisir autre chose, comme s'ils avaient le droit de faire une telle chose. J'ai dû contacter le pasteur, qui dut à son tour contacter ces gens-là et faire le nécessaire. Ces gens-là n'étaient pas méchants, mais ils s'étaient irrités. C'était pourtant la fête. Cela m'attriste beaucoup. En effet, qu'est-ce que cela révèle sur la fête? Pourquoi nous y rendons-nous? Il y a un côté spirituel et il y a le côté physique. Si vous cherchez la petite bête, vous allez la trouver. Vous allez trouver quelque chose à redire. Mais que se passe-t-il quand on chute? On détache ses yeux de la vue d'ensemble ou de l'objet de ce que l'on fait. Je ne dis pas qu'on ne devrait jamais se plaindre quand quelque chose ne va pas. Ce que je veux dire, c'est que nous laissons la petite bête nous enrager quand nous sommes déçus. Nous ratons le plan d'ensemble. Et c'est navrant. Nous prévoyons que nos sites auront des assemblées tous les jours pour tout le monde. Sauf peut-être pour 3 de nos sites. Peut-être Myrtle Beach, Barnes Beach et peut-être aussi Lancaster. À l'heure qu'il est, nous avons plus de 1 000 personnes inscrites pour Branson et 1 000 pour Orange Beach. Il se peut que pour ces deux derniers, pour Myrtle Beach, il y ait 2 groupes, que lors du premier jour saint, un groupe se réunisse le matin et l'autre l'après-midi. Tout sera organisé d'avance. Vous serez avec vos familles, vos amis ou ceux avec qui vous voulez vous asseoir en pareil cas. L'après-midi, l'autre groupe pourra se réunir. Il y aura donc peut-être 2 assemblées dans certains sites. Il est possible qu'il y ait rotation avec une assemblée tous les 2 jours pour chaque groupe jusqu'au dernier grand jour. Où il y aura une assemblée le matin puis l'après-midi, nous assemblant tous les jours saints et tous les jours si possible. Et nous avons 11 sites. Nous prévoyons d'avoir des assemblées tous les jours pour adorer Dieu comme d'habitude. Frères et sœurs, nous entrons dans une période d'incertitude et l'Église a dû prendre des décisions délicates. Annuler des assemblées pour les 12 semaines n'a pas été facile. Célébrer la Pâque, les pains sans levain et la Pentecôte seul n'a pas été facile non plus. Reprendre les assemblées en groupe, exigeant le port d'un masque pour toutes nos interactions, n'a pas été facile non plus. Et les décisions que nous allons encore devoir prendre pour la fête ne seront pas faciles non plus. Chacune de ces décisions peut faire chuter quelqu'un. Nul n'est immunisé. Et quand nous trébuchons, nous perdons de vue le tableau d'ensemble et la raison de notre présence. La vraie religion, l'adhérence à la vérité, doivent nous caractériser. Cette année sera différente et nous nous y préparons. Nous n'abandonnons pas ces 75 ans de tradition de nous rendre à la fête et nous allons la célébrer dans divers sites de par le monde. Certains seront chez eux, certains en petits groupes et d'autres en groupes importants. Nous comprenons pourquoi plusieurs et peut-être bon nombre de nos personnes âgées en mauvaise santé ou qui craignent de sortir et de voyager auront décidé de célébrer la fête chez eux cette année. Mais ne perdez pas de vue, comme je le disais, que la fête n'est pas synonyme de vacances, où l'on peut choisir d'aller où l'on veut. Nous devrions aller à la fête dans les sites qui ont été préparés par l'Église, et certainement dans le lieu où Dieu a placé son nom. Ce que je veux dire, c'est que la fête cette année, pour ceux qui viendront, soit 85% de nos membres aux États-Unis, sera célébrée comme nous l'avons toujours fait, avec quelques petites différences, bien sûr, comme nous l'avons fait pendant de nombreuses années. Un dernier passage, Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les Écritures n'ont pas changé. La fête est toujours la fête. J'ai été convaincu il y a plus de 50 ans que Dieu veut que j'observe, et autant que possible d'une manière qui représente le millénium, aspect physique y compris. Ce sera différent cette année. Pas du genre « fête à papa ». La fête sera différente de celle que nous avions l'habitude d'observer, mais ce sera la fête. Et nous serons une étape plus proche du retour de Christ et de l'accomplissement de ce qu'elle préfigure. Une étape plus proche de l'achèvement du plan du salut. J'écoutais jadis un présentateur de radio à Houston. Et il terminait son émission en citant Jean 14. Voici ce qu'il disait. Que votre cœur ne se trouble point. Ne se trouble point, et sa conclusion était la suivante. Que personne ne vous ravisse votre joie. À mon avis, c'est une très bonne devise pour la fête de cette année. Que personne, ni quoi que ce soit, ni même une pandémie, ne nous enlève notre joie pendant la fête. Je vous souhaite à tous une fête merveilleuse. Ce ne sera pas du genre fête à papa, ce sera la fête de notre Père Céleste.